Je ne sais pas vous, mais ce mois de juillet au cinéma est assez décevant, il faut bien le dire. Avec la vague de chaleur qui s'est installée, j'avais l'intention de me réfugier dans une salle obscure, mais je crois que j'ai déjà vu tout ce qui pourrait m'intéresser. Il y a bien entendu les blockbusters et surtout leurs super-héros qui rivalisent de force, mais j'avoue qu'une fois sur deux, je suis un peu déçue et je me promets de ne pas y retourner. Je ne trouve pas vraiment de super-héros à mon goût. Alors hier soir, j'ai un peu remonté le temps et je me suis lancée dans le visionnage teinté de nostalgie des héros de mon enfance. Ces héros, je me suis rendu compte finalement qu'il ne s'agissait que de femmes. Ma triade à moi, Wonder Woman, sa déclinaison antique Xena la guerrière et sa version un peu plus moderne Super Jamie. On trouve encore en ligne des épisodes de ces séries qui passaient alors à la télévision. Trois héroïnes dotées de super pouvoirs ou de capacités hors normes, trois femmes qui tiennent la dragée haute aux hommes, trois combattantes, trois personnages autonomes, solitaires aussi. Penchez-vous dans vos moments d'errance sur Internet sur l'histoire de la création de Wonder Woman, par exemple. La vie et les engagements de l'homme qui est derrière tout cela sont vraiment passionnants. Mais une question subsiste. Que reste-t-il des super-héroïnes de mon enfance qui ne suivaient pas l'itinéraire tout tracé par la société ? Eh bien, elles sont peut-être à trouver dans notre quotidien. Plus besoin de super-pouvoirs, elles sont là, autour de nous, dotées de la parole, toujours un peu hors normes, mais bel et bien là, parfois à la une des magazines, et souvent, elles dérangent, telles des prêtresses du chaos, car elles remettent en cause l'ordre établi.
France Inter. Le Mac de l'été. Leïla Kadour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous culture sur cette antenne du lundi au vendredi, histoire de vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, un écrivain qui brosse chaque semaine dans le magazine Grazia, un portrait d'icône de la pop culture, des femmes qui réinventent les codes et qui sont souvent considérées comme sulfureuses. Bonjour Simon Liberati.
Bonjour Leïla Kadour.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Vous retrouvez dans cet exercice, pourrait sembler curieux à première vue, un auteur récompensé par de nombreux prix, un auteur sur qui on compte pour la rentrée littéraire, eh bien on ne l'attend pas nécessairement dans les colonnes d'un magazine féminin et pourtant ce n'est pas un galop d'essai pour vous, je dirais même que ça fait partie d'une certaine tradition littéraire que vous avez en partage avec d'autres noms bien connus, je pense à Michel Houellebecq pour ne citer que lui. Simon Liberati, c'était qui votre icône favorite quand vous étiez enfant ?
Quand j'étais enfant, je sais pas. Après, très vite, j'ai beaucoup aimé Jane Mansfield parce que voilà, j'ai écrit un livre sur elle après, mais c'était quelqu'un qui avait. J'étais sensible à ses cheveux décolorés et à son destin. Je pense que ça s'associait toujours à quelque chose d'un peu fétichiste. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans le goût de l'icône, au sens large du terme, au sens où on l'emploie de manière générale maintenant. Et voilà. Après, je sais plus la première. Je sais pas. Il y avait sûrement des séries, mais j'ai pas en mémoire. Wonder Woman, je l'ai pas connue. J'en ai entendu parler après, mais j'ai pas connue.
Vous avez loupé un truc.
Ouais,
C'était plutôt des femmes alors.
Ah oui, non, parce que je l'avais pris dans ce sens-là. Non, après, moi, j'adorais amicalement Vôtre, comme tous les garçons de mon âge. Voilà, j'étais de cet âge-là, à peu près. Hein, c'était au moment où la série est apparue, j'avais la télévision, et donc, j'avais pas la télévision avant, donc j'ai pas pu aimer autant que d'autres Zorro, mais bon, voilà. En tout cas, amicalement Vôtre, sûrement. Oui, ça, je me souviens de ça.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Pour commencer cette émission, on fait un peu les choses à l'envers, Simon Liberati, avec un questionnaire la dernière fois. La dernière fois que vous avez acheté des vêtements ?
Oh, c'est pas très vieux, mais par contre, c'est des vieux vêtements. C'est-à-dire que j'achète mes vêtements en général chez des fripiers, pour appeler les choses par leur nom. Et comme je vis pas loin de Barbès et d'un endroit où je vais depuis la nuit des temps, vous savez que c'est depuis très longtemps, Guérissol, dont on ne dira jamais assez de bien. Enfin, on en dit trop, d'ailleurs, ça devient très, très difficile de trouver des choses. Donc voilà, ça devait être la dernière fois. Je crois que c'était une chemise chez Guérissol.
Oui, vous avez l'œil pour repérer les belles pièces.
Oh, je sais pas si j'ai l'œil pour repérer les belles pièces. J'ai commencé à y aller. Ça s'appelait Guérissol et c'était assez différent à l'époque. Mais il y avait déjà des choses plutôt des années 70 puisque je suis un vieux monsieur. Donc j'ai acheté des choses qu'on trouvait de la décennie précédente, on va dire. Et maintenant, voilà, non, je trouve des choses assez jolies. Oui, il y a des belles choses. Il y a toujours des belles choses.
Vous aimez les vêtements. Vous aimez la mode. Votre parcours le dit, d'une certaine façon.
Oui, j'ai connu, en tout cas, j'ai souvent eu près de moi des gens qui aimaient la mode. Beaucoup plus que moi, et avec certainement beaucoup plus de discernement. Moi, j'étais plus... c'est vrai que ça m'a toujours amusé, intéressé plus qu'amusé. J'aime pas le mot amusé, là, dans ce cas précis. Je préfère l'employer pour d'autres domaines.
La dernière fois que vous avez abandonné la lecture d'un livre ?
Oh, ça, c'est tout le temps, ça. Alors là, je suis pas du tout fidèle. Je lis, je papillonne. Là, en ce moment, j'ai une période assez, je me suis laissé prendre par un livre que j'avais abandonné, justement, très jeune, qui est Tendre et la nuit, que j'ai fini, là. Alors, j'ai fini Scott Fitzgerald 40 ans après l'avoir commencé, dans le livre de poche que j'avais de l'époque.
C'est vrai, de l'époque. Ouais.
Alors, j'ai pas repris la page où je l'avais laissé, mais enfin, je l'ai fini. Alors, j'arrivais pas à le finir. Ça m'arrive très souvent de pas arriver à finir, et je me force jamais, et pas du tout parce que les choses sont pas intéressantes, mais voilà, parce que tout à coup, ça me suffit.
Ouais, ou parce que ça correspond pas au bon moment, c'est pas le...
Oui, mais c'est pratique avec la lecture. C'est la différence avec le cinéma dont vous parliez, où on peut arrêter, reprendre, 40 ans après.
La dernière fois que vous avez lu un magazine féminin ?
Oh, bah ça, j'en lis souvent. J'en lis pas tant que ça, en fait, parce que j'écris dans les magazines féminins. J'écris pour Gradia, j'écris pour Vogue, j'écris pour pas mal de magazines. Donc je les lis quand ils sortent, enfin je les regarde, je suis pas abonné, j'ai pas, et en plus j'essaye toujours de traiter de manière assez sérieuse les sujets qu'on me donne. Donc voilà, j'aime bien la presse anglo-saxonne pour ça. Je vénère pas la presse anglo-saxonne, mais la manière dont ils ont d'aborder les choses, on va dire un peu comme ça, un peu légère, comme je sais pas les chanteuses ou les choses comme ça, c'est bien fait en général, c'est intéressant. Donc voilà, je la lis un peu.
Et la dernière fois que vous avez consulté un horoscope, Simon Liberati ?
Oh, bah ça, tout le monde consulte les horoscopes. Même
non,
là,
pas
je
tout
sais
le monde.
Pas. Oh, bah je sais pas, si, mais
vous
c'est moi, je regarde.
Vous êtes sensible à ça ? Ouais, c'est vrai.
Oui, je regarde toujours, je regarde. Quand je tombe sur un horoscope, je regarde toujours. Ouais.
Trois portraits à lire dans Gradia, signé Simon Liberati. Trois portraits d'icônes de la pop culture. Kim Kardashian, Kate Moss et Madonna, pour le moment. D'autres vont venir, des Amazones des temps modernes, des rebelles qui n'acceptent pas l'ordre établi. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire cette série, Simon Liberati ?
Écoutez, alors là, les envies d'écrire, c'est pas quelque chose que je peux justifier. Je justifierais volontiers a posteriori. J'y vois, quand j'écris, après, une fois que j'ai commencé à en écrire une ou deux ou trois, je commence à voir, en effet, des axes dégagés. Au départ, bah, Kardashian, c'est j'aime bien, a priori. Il y en a que j'aime pas dans celle que vous venez ici. J'aime pas beaucoup Madonna, mais bon, j'écris sur elle quand même, parce que voilà, c'est aussi des commandes, hein, quand vous écrivez.
Mais ça se sent que vous l'aimez moins.
Oui, sûrement.
Mais Kim Kardashian, il y a quelque chose qui vous touche. Vous lui avez consacré le premier portrait de cette série. Vous réhabilitez quelque part cette femme, vous dites hein, même très clairement.
C'est la raison de moi.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est un plaidoyer vibrant, dire tout le bien possible de cette femme d'affaires brillante. Vous aimez les gens un peu hors normes, au physique, dites-vous, anormal. Qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous fascine chez Kim Kardashian ?
Bah écoutez, alors ça m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à, parce que on m'avait déjà proposé d'écrire sur elle et puis ça ne s'était pas fait, puis j'ai jamais vraiment regardé la famille Kardashian. Je l'ai regardé de loin, comme voilà, en passant de temps en temps à la télévision, mais voilà, et puis tout à coup j'ai regardé parce que là bon, j'avais ce devoir important à faire, difficile, parce que les lectrices de Gradient savaient certainement beaucoup plus que moi sur la question. C'est toujours embêtant d'écrire pour des gens qui en savent beaucoup plus que vous, et donc là j'ai acquis, alors je suis un historien raté, donc j'ai assimilé toutes sortes d'informations un peu rapidement, mais bon, avec beaucoup d'énergie, et j'ai découvert qu'elle avait des points communs. Alors je vais avoir l'air d'un obsédé, mais je reparle de Jane Mansfield. Mais j'ai écrit ce livre sur Jane parce que j'aimais beaucoup ce personnage de Jane Mansfield qu'on connaît pas forcément, qui était cette espèce d'actrice sans film en fait, qui avait ce courage permanent de trouver comment faire parler d'elle et comment relancer la machine pour vivre, entretenir sa famille, etc. C'est quelqu'un qui avait un espèce de destin hors norme à cette époque-là. Et Kardashian, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres que j'aime aussi. À ce profil, c'est-à-dire j'aime beaucoup ce côté comme ça, matriarcat, cette espèce d'énergie qu'elle déploie pour et à bon escient. Et puis il y avait la présence de Paris Hilton. J'aimais beaucoup Paris Hilton. Oui. Je crois que j'ai été un des premiers en France à parler de Paris Hilton. Je dis ça a l'air très, enfin c'est pas très prétentieux en même temps. Mais bon, je l'ai fait en tout cas à une époque où on n'en parlait pas. C'était je crois Vanity Fair US qui avait fait un papier qui était pas mal avec des photos de David LaChapelle. Et j'étais tout de suite intéressé par Paris Hilton, qui est plus camp, comme on dit. C'est-à-dire que Kardashian, elle est plus grand public. Paris Hilton, même si elle est très grand public, bon, pour aimer Paris Hilton, enfin, c'est pas quelqu'un dans lequel on a forcément envie de se reconnaître.
C'est plus clivant, oui.
Ouais, c'est plus clivant. Il y a un côté blonde comme ça, puis il y a ce côté un peu prétentieuse, un peu mégère, un peu héritière, mm-hmm. enfin, ouais. toutes sortes de choses qui font peur, mais je l'aimais beaucoup. Et Kardashian était derrière à ce moment-là, c'était sa copine, je crois. Et voilà, donc moi, ça m'intéresse beaucoup à ce genre de trucs. Enfin, pas de trucs, je parle pas de Kardashian, mais je parle de matériel, on va dire, pour écrire. Et donc voilà, donc c'était assez naturel. Et puis quand j'ai découvert tout ce que j'ai découvert, qu'on peut trouver assez facilement, ça m'a permis d'écrire.
Oui, c'est un portrait sensible, c'est un portrait. on sent une forme d'affection. Et en effet, vous établissez très vite, dès les premières lignes, ce parallèle avec Jane Mansfield, à qui vous avez consacré votre quatrième roman qui avait été couronné du prix Femina. Je me doutais bien que ça allait vous faire plaisir. Donc on est parti à la recherche d'une archive de Jane Mansfield. C'était en 57 dans l'émission Ciné Panorama.
Dans votre dernier film, La Blonde Explosive, Jane Mansfield, vous jouez un personnage qui s'appelle Rita Marlowe. Rita Marlowe est une superstar de Hollywood et elle a été entièrement fabriquée par la publicité. Est-ce que vous pensez qu'une pareille, un pareil personnage puisse réellement exister?
I think so, but I think a person to exist as a star is one thing and a person to exist as an actress is another. And a person who has had publicity do so much for them has to carry on where the publicity leaves off.
Je pense qu'une personne peut exister pourvu qu'elle soit elle-même. Ça dépend s'il s'agit d'une vedette ou s'il s'agit d'une actrice. En tout cas, je pense qu'une vedette qui a été fabriquée par la publicité, elle peut exister tout aussi bien et montrer ses talents comme actrice.
Une vedette fabriquée par la publicité, une forme de scandale aussi anatomique, c'est le parallèle que vous établissez avec Kim Kardashian.
Bah oui, là c'est frappant. Là, vous avez trouvé un document qui est assez parlant. On voit d'ailleurs la distance qu'elle a par oui. rapport à sa propre personne. Et ça, c'est déjà très moderne. Je dis pas si c'est très bien, mais en tout cas, c'est pas un jugement moral là-dessus, mais c'est très moderne. Elle a une modernité qui était évidente, qui était flagrante. Quand vous vous retrouviez, comme j'étais à la fin des années 70, où il y avait le féminisme, il y avait toutes sortes de choses, il y avait des modèles très différents, et puis par hasard, vous vous retrouviez ces espèces de stars des années 50, et elle particulièrement. C'était frappant qu'il y avait quelque chose qui allait annoncer ce qui allait arriver. On le sentait.
Oui,
et qui allait annoncer les Blondie, les Madonna, qui est fascinée par Blondie, hein, qui était, c'est Blondie, Debbie Harry, qui a donné un peu le look de Madonna au départ. Donc ça, c'est, voilà, c'était dans l'air du temps, on va dire.
Oui, c'était,
le retour de ce genre alors que ça pouvait paraître extrêmement misogyne. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'étais très, très amusé et flatté et content quand j'ai eu le prix Femina, parce que le prix Femina, c'est pas vraiment donné par des dames à Jane Mansfield, ça lui aurait fait plaisir. J'étais content pour elle parce que je pense que c'était une reconnaissance aussi de sa virtue, comme on dit en latin, de son oui. courage et de sa force réelle.
Oui, parce que vous lui donnez, et je recommande chaleureusement la lecture de Jane Mansfield 1967. Vous racontez en effet sa disparition tragique, mais surtout vous redonnez à cette star un peu de deuxième division, on va dire, par rapport à une Marilyn Monroe qui a toujours été un peu dans l'ombre, une sorte de créature double lancée par le studio concurrent pour occuper l'espace. Vous lui donnez aussi un vrai destin, un vrai itinéraire, comme vous le faites dans votre série dans Gradia, concernant notamment, je pense, Kim Kardashian, où je sens vraiment qu'il y a un cœur qui bat, Simon Liberati. Simon Liberati dans le Mac de l'été, le son du jour sur France Inter, c'est Hubert Lenoir, Fille de personne, tiens.
Je suis venu te dire que tu peux changer.
Vous êtes bien sûr France Inter dans le Mac de l'été avec Simon Liberati. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme.
Comme je dis, ce que je veux, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir des garanties. Je ne veux plus jamais qu'on attente à la vie de mon père.
Comme tous les étés, on se rue sur la série d'articles du Monde consacrée cette année à Al Pacino. Le parcours de l'acteur et réalisateur américain est retracé avec brio en 6 épisodes à travers 6 films cultes par le journaliste Samuel Blumenfeld. 3 articles sont déjà disponibles. Le premier revient sur la découverte du comédien dans Panique à Needle Park en 71. Le deuxième sur sa consécration dans Le Parrain. Et enfin le troisième sur le film Cruising en immersion dans le milieu gay SM de New York. Vite, vite, la suite.
Auteuil ne y pas si, c'est pas du gâteau. Auteuil ne y pas si, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien?
Bah oui, ça va super. La maison d'Honoré de Balzac a rouvert ses portes au grand public. La bâtisse est située dans le 16e arrondissement de Paris, au cœur du quartier de Passy. C'est là que l'écrivain Fleuve a corrigé 7 années durant l'ensemble de la comédie humaine. C'est là qu'il a passé ses nuits au travail, dans un minuscule bureau, dos à la fenêtre, dans une chaleur étouffante. En dessous, un blanchisseur faisait bouillir du linge. C'est là qu'à grand renfort de café, considéré comme une drogue à l'époque, il a noirci et raturé des milliers de pages.
Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon amie.
Du cinéma sur Arte, une soirée consacrée à Juliette Binoche. 2 films, 2 expériences et que du bon. Rendez-vous d'André Téchiné avec Jean-Louis Trintignant, l'itinéraire d'une provinciale qui débarque à Paris pour devenir comédienne. Une sorte d'éducation sentimentale et artistique qui a fait connaître Juliette Binoche. C'était en 85. Un scénario co-signé par Olivier Assayas, alors débutant dans l'exercice. Près de 30 ans plus tard, il mettra à nouveau en scène Juliette incarnant une comédienne dans Sils Maria. Et ce n'est pas fini. À 22h15, ne manquez pas Copie conforme du réalisateur iranien Abbas Kiarostami, un rôle pour lequel Juliette a été récompensée à Cannes par le prix d'interprétation féminine en
2010.
Abbas Kiarostami doit se retourner dans sa tombe. On vient d'apprendre la condamnation à 1 an de prison du cinéaste Mohammad Rasoulov, iranien comme lui. Une peine assortie de 2 ans d'interdiction de sortie du territoire et d'interdiction de se livrer à une activité sociale et politique. Mohammad Rasoulov avait été récompensé à Cannes du prix Un certain regard en 2017 pour son long métrage Un homme intègre, un film qui dénonce la corruption qui gangrène son pays. Il est accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'Iran.
Leïla Kadour, le Mac de l'été sur France Inter.
Simon Liberati toujours dans le Mac de l'été, notamment pour sa série d'articles dans Grazia cet été, des articles sur des icônes de la pop culture. On va revenir, Simon Liberati, si vous le voulez bien, sur un moment de votre vie qui me passionne. Vos années au mensuel 20 ans. Votre pseudo, je crois, était Pol Pot, avec un E.
Un des nombreux pseudos. Il y avait Carla Bruti, il y avait Eugène Mansfield au début, c'était le premier, on y revient. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres que j'oublie, mais voilà.
On se souvient notamment de vous pour vos horoscopes dans ce mensuel, des horoscopes inventés forcément, où vous prédisiez un avenir catastrophique, des misères financières, la déchéance et la déception amoureuse. Pour vous donner un petit exemple, bon mois pour se faire amputer. Ou vous n'êtes plus très jeune, ce n'est pas une raison pour vous laisser aller. Poisson, mieux vaut encore écouter l'intégrale de Francis Lalanne que de faire votre horoscope en ce mois plat comme les cheveux du susdit. Effet secondaire, risque de somnolence. Vous écriviez en fait des horoscopes pour dégoûter les jeunes filles en fait dans lire.
Alors l'horoscope de 20 ans, je l'ai écrit pendant quelques années, je l'ai pas toujours écrit, je sais pas si Lalanne c'était moi par exemple, c'est pas du tout que je veuille me dédouaner de cette opinion sur ce garçon, mais je veux pas souvenir, je me souvenais en effet de l'autre, là, celui que vous avez lu avant, bon après on se souvient pas de tout ce qu'on fait, comme il dit aussi, mais en tout cas je l'ai fait pendant assez longtemps, oui c'était pour dégoûter les lectrices de l'horoscope, certainement, ça devait être ça notre excuse, oui. Après... voilà, on faisait ça parce que c'était plus drôle que de faire un nom. Mais ça marchait bien, on avait des lettres d'insultes, il y avait des filles furieuses.
Ah, ça se mesure au nombre de lettres d'insultes.
Oui, oui. Moi, je mesurais toujours un peu l'efficacité des articles avec des réactions un peu violentes. Et les horoscopes étaient comme toujours, comme dans toute la presse, hein, c'est la page qui me dépasse, qui est très lue, hein. Il y a des pages qui sont pas lues. L'horoscope, oui.
Pour en gros, quand on voit les types d'articles qui étaient dans 20 ans, je m'ennuie avec mes enfants, comment se maquiller à un enterrement, c'était très subversif, c'était vraiment ce contre-pied permanent de la pensée dominante, marre du couple aussi, donc c'était une sorte d'injonction à ne pas se laisser aller. Qui était la cible de ce mensuel ?
Écoutez, alors c'était assez compliqué parce qu'en fait on est parti, on avait un journal entre les mains. Enfin, je dis on, c'était Isabelle Chazot qui était la grande prêtresse de ce journal pendant toutes les années importantes de 20 ans. Et donc bon, j'étais son on va dire son bras droit pour simplifier. Et on avait un journal qui appartenait à un groupe qui était le groupe Dupuis, qui était, je vous raconte des choses qui ont l'air embêtantes, mais c'est plus drôle, qui était un groupe plutôt très à droite. Hein, c'était des gens très qui éditaient Magazine Hebdo à l'époque. D'accord. Etc., des trucs assez... et puis ils avaient des journaux sérieux, genre Science et Vie, etc. Alors du coup, ils lisaient un peu. Il y avait Yveline Dupuis, qui est morte depuis, mais qui était quelqu'un qui faisait partie de la famille, qui surveillait ce qu'on faisait. Mais il n'y avait pas de surveillance au sens idéologique du terme. On pouvait vraiment se permettre d'écrire un peu n'importe quoi. Et on avait envie, comme on s'ennuyait, parce qu'on n'avait pas du tout envie de faire... Au départ, on était prétentieux. On ne voulait pas forcément faire un journal pour adolescentes. Voilà, on avait dit, mais bon, c'était la Isabelle avait frayé le terrain, on avait cette citadelle et donc on pouvait s'amuser à écrire, enfin pas s'amuser, parce qu'on était très, moi j'étais à l'époque au Parti communiste, en tout cas au début du journal, ça devait être dans les années 90, au moment de la guerre du Golfe à peu près, et puis après bon bah on fait le journal à partir, enfin moi j'y suis vraiment à partir de 93, 94 jusqu'en, hein, et là on a fait un journal très subversif parce qu'on était libre. Alors il y avait la publicité, il y a toujours la publicité qui est toujours un élément un peu, on va dire, quand on est gentil, modérateur. Mais donc eux, ils n'étaient pas toujours très contents, surtout quand c'était des trucs très trash, parce qu'il y avait un goût pour le trash. Mais il n'y avait pas que du trash. On voulait faire réfléchir, on voulait dégoûter de la consommation. On avait à l'époque, moi, ce n'est pas forcément comme ça qu'aujourd'hui je verrais les choses, mais on avait une vision très politique qui venait d'un philosophe un peu oublié, mais aimé de certains encore aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont une véritable culte, qui s'appelle Michel Klouskar, qui était un marxiste, léniniste, assez sérieux, et donc on avait une analyse qui était proche de celle de Klouskar et qui a des répercussions aujourd'hui sur des gens sérieux, hein. Donc c'est relativement sérieux, et il y avait, bon, en effet vous avez cité Houellebecq tout à l'heure, mais Houellebecq c'était un compagnon de route, c'est-à-dire qu'on l'a rencontré au moment où il a fait Extension du domaine de la lutte,
un camarade que je ne nommerai pas m'a dit lis ce truc, je l'ai lu et je me suis dit tiens, j'ai montré à Isabelle, Isabelle a voulu le rencontrer, c'est comme ça qu'on est arrivé sur Houellebecq, qui a écrit un petit peu, qui était plutôt, qui n'était pas journaliste, il n'a jamais été, il n'était pas envie de ça, à l'époque c'était déjà quelqu'un qui avait une carrière littéraire qui commençait, mais voilà, en tout cas on avait ça, et puis on avait des et puis il y avait la mode qui était quand même importante, on avait quelqu'un qui aujourd'hui s'occupe de Vogue, qui s'occupait à l'époque de 20 ans, qui s'appelle Emmanuel Alt, et qui était quelqu'un qui apportait au journal quelque chose de très juste au point de vue du style. Donc entre le bon style et un discours politique qui était en effet relativement pas dans la norme, on a essayé de faire un journal un peu drôle. Et c'est pour ça, je pense que ça a eu une influence.
Oui, vous avez bercé des générations.
De très jeunes filles.
Oui, de très jeunes filles, et puis même des plus âgées qui jetaient un œil quand même dans 20 ans pour suivre un petit peu tous ces articles, ces angles un peu improbables qu'on se permettrait sans doute plus aujourd'hui dans un magazine. C'est plus possible.
Je sais pas, vous savez, on peut toujours tout se permettre. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on peut arriver à faire quelque chose. La tolérance est assez importante. Il suffit d'avoir envie. Après, il y a les gens qui se censurent eux-mêmes. Alors après, ça, c'est autre chose. Parce que pour des raisons, pour pas dire de mal d'un tel, parce qu'on disait des horreurs. Donc, je pense que dans l'équipe, il y avait plusieurs tendances. Il y avait des gens qui étaient plus radicaux, dont je faisais partie à l'époque. Parce que moi, j'étais au RMI avant de travailler dans la presse. J'avais pas particulièrement envie d'être journaliste, ni rien du tout, d'ailleurs. Et donc, voilà, je faisais ça. Et puis il y avait des gens qui étaient plus ouverts, on va dire. Donc évidemment, il y avait
des luttes internes, ouais.
On surveillait moins, par exemple, tout ce qui était les pages people, on va dire, parce que là, c'était plus dangereux. J'ai eu quand même des algarades avec Ophélie Winter, la pauvre, je ne sais plus pourquoi. Mais enfin, c'était pas très méchant. Mais par contre, politiquement, sur tous les articles de psycho, on va dire, là, on essayait d'être, de psychosociété, pour être large, on essayait d'être plus sérieux que les journaux qui nous paraissaient. C'est très très peu sérieux qu'étaient les journaux sérieux, entre guillemets.
Une critique aussi de la société de consommation à travers ces articles. Et puis, on peut se poser la question aussi de la vision du féminisme. En tout cas, il y a le pseudo-féminisme défendu par les magazines féminins qui n'en est pas, où on nous invite chaleureusement chaque année à perdre du poids ou à faire plaisir à notre homme au lit, potentiellement. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger quand moi j'ai vu que Michel Houellebecq avait signé dans 20 ans, quand j'ai des souvenir de propos de Michel Houellebecq concernant les femmes. Et justement, on a retrouvé un extrait dans Bouillon de culture de Bernard Pivot en 98 où Michel Houellebecq faisait face à une auteure, Marie Nimier. Écoutez.
Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont sont traitées les femmes?
Les femmes, c'est épouvantable. Oui. Parce que soit elles sont déifiées, la femme, soit c'est les pétasses, etc. Les vachasses quand elles allaitent, les pétasses nazies quand elles sont blondes. Enfin, la femme de 40 ans en plus. Alors la description de la femme de 40 ans avec la vulve pendante. Non, c'est terrible. Ouais. Alors, la femme laide n'a aucun espoir d'être aimée. Moi j'ai eu beaucoup de mal.
C'est réaliste sans plus.
Hein. Ah bah merci. Super sympa.
La Saïd Houellebecq.
C'était pas dans 20 ans qu'il écrivait tout ça. Donc c'était voilà, après
reprend en particulier l'élémentaire des éléments qui font penser à l'aventure 20 ans, que ce soit Isabelle Chazot qui est à la tête de Lolita, ce magazine, et on trouve encore des réminiscences de cette période.
Oui, il est pas toujours gentil d'ailleurs, il mord un peu la main, pas qu'il a nourri parce qu'on le nourrissait pas beaucoup, mais enfin qu'il était là, il dit des choses sur la, je sais plus, je m'en rappelle plus, mais enfin après voilà, mais en tout cas bref, c'est comme ça, c'est quand on fait une équipe il y a des gens qui ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Nous, on se moquait de lui aussi. On faisait des articles très méchants, parfois sur des écrivains. On ne savait pas trop qui c'était, qui voulait séduire des jeunes filles. Donc, on disait aux jeunes filles, méfiez-vous. Il va essayer de vous emmener au petit restaurant chinois. Et puis, il va vous dire, ah, le restaurant chinois est fermé. Tiens, on pourrait rester chez moi. Donc, et ça, bon, c'était de l'inspiration directe. Hein, ça nous venait d'observations qu'on avait pu faire. Enfin, pas moi, mais d'autres. Et donc, si vous voulez, c'était comme ça. On balançait, comme on dit, enfin on écrivait des choses assez virulentes, même les uns contre les autres, à l'intérieur même du journal. Bon, mais c'est toujours un peu comme ça. Après, il ne faut pas non plus... c'était juste un journal, c'était amusant. Mais
j'ai l'impression d'avoir réveillé de jolis souvenirs, là. Tout d'un coup, votre regard s'est égayé, tout d'un coup, à l'idée de penser... Vous avez conservé des numéros de 20 ans?
Aucun.
C'est pas possible.
Non, j'en ai aucun, et je ne me souviens même plus des articles que j'ai écrits. C'est-à-dire qu'Isabelle, que je vois toujours, me dit de temps en temps, tiens, tu te souviens quand tu as fait ci ou ça? Absolument pas. Surtout qu'alors, en plus, on avait une politique politique est totalement interdite normalement, très pas du tout déontologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des articles qui nous étaient livrés qui nous plaisaient pas, et on changeait totalement le contenu du sujet, et on laissait le nom du journaliste parce qu'on voulait quand même qu'il soit payé, ou pour pas là, parce qu'il aurait été triste qu'on lui mette un pseudo. Donc parfois, il y a des papiers qui sont sortis absolument massacrés par moi, en partie, qui était un peu la machine à écrire de la rédactrice en chef, qui était, elle, le Pol Pot du magazine. Donc voilà, le bureau politique, à elle toute seule.
Il y a un livre qui est sorti à ce sujet, 20 ans, Je hais les jeunes filles, de Marie Barbier. Ça vous permettra de replonger dans ces années, si ça vous dit quelque chose, si vous aussi, vous avez régulièrement lu 20 ans à cette époque. Il est venu le temps de rembobiner Simon Liberati. Tous les jours dans cette émission, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre invité dans votre transistor, la voix d'André Breton qui raconte en 1950 comment son travail dans un hôpital psychiatrique a influencé sa création surréaliste.
Le changement d'affectation qui, du jour au lendemain, me fit assistant du docteur Raoul Leroy au centre psychiatrique de la 2e armée à Saint-Dizier, était dirigé sur ce centre les évacués du front pour troubles mentaux dont nombre de délires aigus. D'autre part, divers délinquants en prévention de conseils de guerre pour lesquels un rapport médico-légal était demandé. Le séjour que j'ai fait en ce lieu et l'attention soutenue que j'ai portée à ce qui s'y passait ont compté grandement dans ma vie et ont eu sans doute une influence décisive sur le déroulement de ma pensée. C'est là, bien que ce fût encore très loin d'avoir cours, que j'ai pu expérimenter sur les malades les procédés d'investigation de la psychanalyse, en particulier l'enregistrement, aux fins d'interprétation des rêves et des associations d'idées incontrôlées. On peut déjà observer en passant que ces rêves, ces catégories d'associations, constitueront au départ presque tout le matériel surréaliste. Il y aura eu seulement amplification des fins en raison desquelles ces rêves, ces associations doivent être recueillies. Interprétation, oui, toujours, mais avant tout libération des contraintes, logiques, morales et autres, en vue de la récupération des pouvoirs originels de l'esprit.
André Breton, qui fait un peu partie de votre paysage, Simon Liberati.
Oui, alors pourquoi ? Parce que mon père a fait partie du groupe d'André Breton dans les années 50, avant jeunesse.
Il était poète,
vous avez raison de le souligner et de le répéter, et il a été proche de Breton, enfin proche, en tout cas, oui, dans ses proches, et pour moi, c'est une figure, alors je savais pas qui c'était, moi, quand j'étais, je raconte souvent cette histoire, mais quand j'étais enfant, j'avais 5 ans, mon père a dit, je vais chez Breton, parce qu'il l'avait pas vu depuis longtemps, et je crois qu'il l'a revu une dernière fois avant sa mort, en 66, et le mot Breton m'a frappé, parce que vous savez, l'émotion. Quand vous sentez l'émotion dans la bouche de vos parents sur quelque chose, les enfants sont sensibles à ça. Donc j'ai entendu ça et ça a tout de suite. Donc après le nom est resté. Alors là, c'est quand j'entends sa voix, ça me stupéfie parce que j'oublie toujours qu'il parle comme ça. Il parle avec ce ton qui est presque un ton d'avant-guerre, enfin cette manière qui est d'ailleurs assez jolie, mais qui est très particulière. Alors pour moi, évidemment, c'était pas qu'une voix, c'était juste une présence. C'était mon père, parce qu'il a été vraiment formé par lui, et je pense qu'il est toujours resté au fond un surréaliste.
Et pour vous, Breton, donc, voilà. C'était le mari de la Bretonne.
Oui, parce qu'il y avait une vendeuse de crêpes, une dame qui faisait des crêpes et des produits régionaux en bas, la rue en bas de chez moi. Et je croyais que c'était, elle s'appelait ma maman disait toujours la Bretonne, et je croyais que Breton, c'était le mari de la Bretonne. Mais je me disais, ce mari quand même, parce que j'ai entendu cette voix quand il a dit le mot Breton, et il y avait quelque chose. Vous savez, Breton avait une force extraordinaire qu'on n'entend pas forcément dans sa voix, là, parce qu'il fallait voir aussi l'homme avec la voix, je pense. Il avait une capacité de fascination sur ses troupes, qui étaient absolument hors normes. Hein, et ça se ressent, tous les gens qui l'ont approché. Il faisait peur, il était aussi très, très important. Donc c'était une sorte de, pas de gourou, parce que j'aime pas ce mot, mais enfin c'était quelqu'un qui avait vraiment une force un vrai maître. Maître, enfin c'est pas un bon mot non plus, disons, un meneur en tout cas de groupe.
Et ça vous a donné envie d'écrire très, très jeune. Enfin, j'ai la sensation qu'André Breton était là, une sorte de figure.
Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Parce qu'il faisait peur à travers mon père. Mon père, quand j'ai commencé, moi, je raconte toujours ça, mais mon père, quand j'ai écrit mon premier roman, m'a dit, oh, bah, tu vas quand même pas devenir romancier. Le surréaliste, c'était beaucoup de, on fait pas ça, on fait pas ci, on fait, enfin, tel quel. À côté, c'est le groupe de Philippe Soler, qui était assez radical aussi. C'est pas de la petite bière, mais enfin, les surréalistes, ça rigolait pas, quoi. Vous pouviez être exclu parce que vous travailliez, vous étiez journaliste. Alors, un journaliste, alors, même à 20 ans, je pense que alors là, c'était mort. Donc, si vous voulez, j'avais tout ça en tête. Donc, si vous voulez, pour moi, la littérature, c'était mort. C'est pour ça qu'il y avait Henri Michou aussi, tiens, de mes pseudos.
C'est vrai?
Ouais, Henri Michou. Donc, je pensais que la littérature, voilà, bon, bah, j'en ferais jamais. Moi, je faisais de la presse. Bon, après tout, le monde était content. Je gagnais ma vie. Je faisais un peu de peinture. Je faisais beaucoup de peinture.
Beaucoup
même.
De peinture. Comment vous êtes autorisé à écrire alors?
Oh, bah, je sais pas. Ça a été un moment. C'est venu parce que tout à coup, j'avais envie de parler de quelque chose et j'ai senti que ce truc dont je parlais était intéressant pour moi et que il y avait quelque chose entre les mains et que je maniais bien le médium, vous voyez, je sentais, alors que la peinture, j'adorais la peinture, mais c'était un truc un peu j'étais un peu dépassé par ma, je voulais faire mieux que ce que je faisais, alors que dans la littérature j'ai eu un peu peur de ça. Je me suis dit, oui, mais est-ce que ça va être, parce qu'il y avait cette idée quand même derrière de attention, la littérature ça rigole pas, il faut pas, donc j'étais un peu, voilà, j'avais un peu l'impression, je me disais, est-ce que ce livre est vraiment très. Puis parfois, tout à coup, j'ai senti qu'il y avait des trucs qui venaient, et donc voilà, j'y ai cru, et puis voilà, et puis je ne sais pas si j'ai eu raison. Enfin, en tout cas, j'ai fait les livres, et après, évidemment, j'ai oublié mes peurs. Enfin, j'ai eu d'autres problèmes, mais pas celui-là, et voilà.
Je ne sais pas quelle place occupe la poésie dans votre vie, Simon Liberati, mais nous, dans le Mac de l'été, tous les jours, on pousse les murs pour lui faire une petite place. Tous les jours, une grande voix de France Inter nous lit un texte.
Le son lointain d'une tondeuse à gazon, en été, me rappelle de bons souvenirs d'enfance. Je jette difficilement. Une de mes ancêtres avait la manie de conserver. À sa mort, on a retrouvé une boîte à chaussures sur laquelle une étiquette soigneusement calligraphiée indiquait « petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien ». Je ne crois pas que la sagesse des sages se perdra. Je peux me sentir plus à l'aise avec quelqu'un de gentil qu'avec quelqu'un de méchant. Mes mauvais souvenirs de voyage sont plus drôles à raconter que les bons. Qu'un enfant me dise « monsieur » me déconcerte. Je trouve quelque chose de plaisant dans le malheur d'un amour qui s'achève. Un ami m'a fait remarquer que j'avais l'air content lorsque des invités arrivaient chez moi, mais aussi lorsqu'ils en repartaient. Je me précipite sur les buffets gratuits jusqu'à l'écœurement. Les cadeaux me mettent mal à l'aise, que j'en fasse ou que j'en reçoive, sauf s'ils sont justes, ce qui est rare. L'amour me donne d'immenses plaisirs, mais me prend trop de temps. Je reconnais le marronnier, le tilleul, le peuplier, le saule pleureur, le chêne, le châtaignier. Je ne sais pas nommer les étoiles, régulièrement, j'envisage d'apprendre par cœur de longs textes pour entraîner ma mémoire.
Vous l'avez reconnu, c'est Caroline Gillet que vous retrouvez dès la rentrée dans Foule Continentale tous les samedis à 22h. Caroline, merci à vous et explique-nous pourquoi tu as choisi ce texte.
Alors c'est Édouard Levé, autoportrait. C'est un texte qui a été écrit quand il est parti en voyage aux États-Unis. En fait, il était parti faire des recherches sur les villes homonymes. Donc il y avait les mêmes noms, donc Rome, Venise, Bagdad, toutes ces villes qui existent aussi aux États-Unis et ailleurs. Et en fait, je sais pas pourquoi, il s'est dit que il n'avait plus qu'un mois à vivre, qu'il allait bientôt mourir, et donc il a été pris de panique. Plus tard, il s'est rendu compte que ça avait été ridicule de penser ça, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, il a commencé à rédiger une autobiographie, à mettre des phrases comme ça. Pendant 3 mois, il s'est plus arrêté. Alors à l'époque, il est pas décédé, mais ensuite, il s'est donné la mort plus tard, à 42 ans. Et moi, ce texte, il me touche énormément, parce que à la fois, on va s'amuser évidemment à retrouver des choses qui nous touchent et dans lesquelles on se reconnaît, et puis d'autres dans lesquelles on se reconnaît pas. L'idée qu'on peut avoir une expérience partagée avec un homme qui n'a pas mon corps, qui n'a pas ma vie et qui pourtant a tant de points communs. Et puis ça me fait penser à une jeune fille que j'ai rencontrée ce matin, qui est une jeune roumaine, parce que moi je rencontre beaucoup de jeunes pour l'émission, et elle me racontait qu'elle avait grandi dans un petit village en Roumanie, qu'elle n'avait pas d'électricité, que son père battait sa mère, que c'était terrible, mais qu'elle avait une grand-mère qui lui racontait plein d'histoires issues de la radio, personne ne lisait, et puis un jour elle a trouvé un livre, et dans le livre elle a compris qu'en fait on pouvait avoir d'autres vies, et du coup ça lui a donné une très très envie de ne plus jamais vivre là et de partir à tout prix. Et ça m'a émue parce que je l'ai rencontrée à Paris, donc elle avait réussi à s'en aller, à vivre autre chose, et ça m'a touchée de repenser à ce texte et de me dire que l'un et l'autre, cette petite Madalina qui vient de Roumanie et qui a 20 ans, et Édouard Levé qui malheureusement est disparu, mais l'un et l'autre avaient plaisir à observer le réel, à lire et à se dire que d'autres réalités pouvaient être possibles.
Simon Liberati, est-ce que vous lisez beaucoup de poésie? vous en écrivez.
Alors, je suis content d'avoir entendu que c'était Édouard Levé, parce que j'avais pas entendu le nom. Je connais pas, je le connais, on m'en a beaucoup parlé, mais je l'ai pas lu. Oui, je lis beaucoup de poésie, ça m'arrive encore, mais moi, je lis des choses, je lis des choses un peu anciennes, enfin, je lis encore beaucoup Baudelaire, ça ferait rire certains, de mes amis, parce que Baudelaire a toujours un côté un peu dire Baudelaire. À 60 ans, bon. Mais bon, c'est comme ça. Et puis beaucoup, bien sûr, quelqu'un, un poète qui m'est vraiment très, auquel je suis très sensible, qui est Nerval. Et puis voilà. Et puis je le relis de temps en temps des choses, oui, surtout des vers.
Et est-ce que vous en écrivez?
J'en ai écrit quand j'étais jeune. J'ai écrit à des distiques que j'ai. Alors on utilise tout, enfin moi en tout cas. Et donc j'ai réussi à en recaser certains dans mes livres. Dès le premier, j'en ai calé un ou deux. Et de temps en temps, j'en ressors un. Et alors j'ai vu avec effroi l'autre jour que j'avais mis un poème dans le premier livre. Et puis je sais plus sur un réseau social, je sais plus lequel, Instagram peut-être. J'ai vu que on m'attribuait un poème qui était dans un livre, alors qu'en fait c'était pas du tout moi qui l'avais écrit. Je tiens à rétablir modernité, modernité sous les cris, les huées, l'impudeur des prostituées. Tué, resplendit pour l'éternité, c'est Jean Lorrain, qui est un Normand, un écrivain plutôt de prose, mais qui a aussi écrit des poèmes très décadents et mort dans des conditions un peu sinistres, mais qui a écrit ce poème au début des années 1900, donc c'est pas moi. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on prépare, Simon Liberati, Occident est sorti il y a peu de temps, début de l'année.
Ouais.
Un roman en trois parties, c'est votre dixième roman, où vous, je crois qu'il y a un téléphone qui est allumé, c'est le vôtre, mais c'est pas grave, vous serez simplement puni, Simon Liberati. Ne vous inquiétez pas. Un prochain roman est en préparation?
Oui, alors j'écris en fait j'écris un livre en trois tomes et là je suis en train d'écrire le premier tome et c'est compliqué, enfin c'est toujours compliqué des bouquins, surtout quand on les apprivoise au bout d'un moment, enfin au bout d'un moment ils deviennent des soutiens, oui. Mais au début et pendant ça peut durer un an, deux ans, trois ans, ils sont pas du tout des soutiens, ils sont des parasites ou des gens qui vous prennent la tête et donc vous souffrez et puis bon à un moment tout à coup ça se renverse et après on est content de pas les avoir fait parce que ça c'est encore une chose dont on n'a pas tellement conscience mais en tout cas de les avoir, ouais. On les retrouve avec joie puis après on est triste quand ça s'arrête, alors là heureusement il y en a trois donc peut-être que l'effet de tristesse va être très grand après le troisième, j'espère que j'irai jusque là, enfin je le souhaite pas forcément pour mes lecteurs mais pour le moment ce que j'ai sous les yeux me donne l'impression que c'est pas forcément, mais bon voilà c'est comme ça va pas, je sais pas, ça va sans doute passer, c'est un livre qui, c'est une trilogie qui se passe entre 1966 et les débuts des années 80, ça se passe à Paris, à Rome et à New York. Voilà.
Ben justement, vous parlez de voyage par la littérature. Nous, dans cette émission, on aime les voyages, mais les voyages immobiles. On n'aime pas bouger le petit orteil. Vraiment, aujourd'hui, on va s'évader dans les Caraïbes avec The Fugees, Fugila, sur France Inter.
Il passe par Haïti, Paris, l'Espagne, tout partout, New York City. Alors viens voir, seront leur répertoire.
On était numéro 10, Mener numéro 1. Oui, Clef, fils de prêtre, rappeur, pas gangster. Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Tatilleuse avec moi, chantons, oulalala. From Brooklyn to Jersey, Manhattan to Paris. Fuji's international like no other MCs. Like Ichini, Sangshi, Go no Koshichi, Hachi. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, baby? She looked at me and smiled, I started losing control. My French wasn't up to par, so I rocked in Creole. Il passe me de calotte, moi tombé rêvé, hambré. Même sous conduit au football, dernier goal lancé pour Pelé.
Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we take.
She love me like no other before.
Jerus kids be rockin' and get down for they dough, but
mucho trabajo, poquito dinero.
But soon I'll be counting pesos with my peeps in Mexico.
But for now I'm in La Bamba, push the lyrics with the samba.
Crews get confused when I say konnichiwa, so I move from Japan and make plans in Korea.
Like na 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 na, anyang hashamika, ha ha, suli, serang mamni, ha ha.
Vas imaginer nos poèmes, jamais me détruire. Je sens les faibles de bien loin de l'atmosphère quand j'ai respiré.
la mentalité infantile.
La cause vraiment, cause imbécile.
Qui pense que la poésie est facile.
Des milliers ont continué à mystifier.
En rêve profond réalisé.
À travers les mots de réfugiés.
Alors viens voir ces grands mots répertoires.
Si tu connais pas mon histoire,
rappelle les réfugiés sont là.
Oh la la la. It's the way that we rock when we doing our thing. Oh la la la. It's the remix sound that the refugees bring.
Palmier, j'aime à 90 degrés. J'ai joué avec la brise dans les West Indies. Fruits de mer, envoie mes valises. Du bon vin fin sur la Normandie avec ma Josephine.
Telling me this, telling me that.
They smile in my face, but they talk behind my back. But what they lack is the facts about my stacks. L'impact de mon rap, le tout douce, ma
hey, yo, what's going on? I'ma get and come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy you on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yo, what's going on? I'ma get and come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy you on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Call Mr. Martin, tell him to build a coffin. Today is dead season. 100 MCs I get murdering.
Stop it!
Call Mr. Martin. Tell him to build a coffin. Today is dead season.
Merci Simon Liberati. Bah,
merci à vous, écoutez.
Je rappelle la sortie d'Occident aux éditions Grasset. On attend avec impatience le suivant. J'espère qu'il ne vous fera pas trop souffrir. Et puis vos articles, là aussi dans Gradia, toutes les semaines, un portrait d'une icône de la pop culture. Merci à toute mon équipe, Étienne Bertin à la réalisation, Rémi Sistiaga à la technique, Marie-Laurent Chéry, Raphaël Grimm-Marquis, Jean-Baptiste Audibert, sans oublier mes deux petites poules affectueusement nourries au grain, Anouk Valverde et Maëlan Loaec. On se retrouve dès demain 18h avec l'essayiste et journaliste Mona Chollet, auteur de Beauté Fatale, de Chez Soi, de Sorcière aussi, Joie, Joie et Rejoie. J'en profite aussi pour vous annoncer que ce soir, mon camarade Soro Solo consacre une émission spéciale au Zoulou blanc Johnny Clegg qui nous a quittés il y a peu. C'est à 21h dans l'Afrique en solo. Très belle fin de journée à vous tous sur France Inter.